L'actualité francophone avec la RTBF en Belgique, la radio-télévision suisse, Radio-Canada, RFI et France Inter. Au sommaire au Canada, dans la province de l'Ontario, l'augmentation du salaire minimum fait débat. En France, débat aussi après la décision du gouvernement de réduire la vitesse sur les routes secondaires. La Belgique demande à la France de restituer des tableaux volés pendant la Révolution française. En Afrique, question après une tuerie en Casamance au Sénégal. Et puis en Suisse, pétition et manifestation annoncées avant la visite de Donald Trump au Forum économique mondial de Davos. D'abord, les personnalités de la semaine au Canada. Tamara Alteresco, vous avez choisi le réalisateur Jean-Marc Vallée qui a triomphé avec 4 trophées au prestigieux Golden Globe à Beverly Hills dimanche dernier.
Absolument. Son adaptation du roman Big Little Lies, un véritable petit bijou, a été sacrée meilleure mini-série de l'année. Et les actrices principales et de soutien, Laura Dern et nul autre que Nicole Kidman, ont décroché le titre de la meilleure performance. Ce qui est intéressant, c'est que c'est une série qui, en 7 épisodes, traite des questions de viol et de violence conjugale. Et de la voir briller durant cette année où les femmes dominent dans l'actualité avec tous les mouvements de dénonciation auxquels on assiste, ça a été un moment assez spécial pour Jean-Marc Vallée. Il nous a dit en entrevue à Radio-Canada cette semaine à quel point il avait été ému de recevoir le prix dans un tel contexte.
En Belgique, Nathalie Devic, l'homme de la semaine, un manager de talent.
Preuve en est, il a été élu manager de l'année 2017 par le magazine économique belge de référence Trends Tendance, une récompense chaque année très convoitée, vue comme une consécration dans le gratin de l'économie. L'heureux élu s'appelle Jean-Pierre Lugène, un nom qui vous parlera sans doute davantage si je vous dis qu'il est le patron d'Icewatch, ces fameuses montres ludiques lancées il y a à peine 10 ans et déjà vendues à plus de 20 millions d'exemplaires dans une cinquantaine de pays. Une belle success story pour ce patron de 52 ans, comme quoi il n'y a pas que Rolex pour montrer qu'à cet âge-là, on a réussi.
La Suisse, Pierre Enchauffat, un animal a retenu votre attention.
Un animal à la chair fine, apprécié des gourmets, le homard, mais un animal qui souffre trop quand le cuistot le jette vivant dans l'eau bouillante, la méthode de cuisson la plus répandue, du moins selon l'avis du gouvernement suisse. Comme ses acolytes des capodes marcheurs, langoustes, crabes et autres tourteaux, le homard est en effet doté d'un système nerveux complexe. Il faudra donc estourbir ces animaux avant de les cuire, soit en les électrocutant, soit par écrasement mécanique du cerveau. Les assommer, quoi. Le gouvernement ne précise pas le degré de douleur supposé de ces méthodes.
En France, la femme de la semaine, Catherine Deneuve, 74 ans, l'actrice a signé une tribune parue dans le journal Le Monde, à contre-courant de l'élan de l'affaire Weinstein, avec son lot de dénonciations d'agressions sexuelles. Cette tribune défend la liberté des hommes d'importuner. Il est écrit, je cite, « Le viol est un crime, mais la drague insistante ou maladroite n'est pas un délit, ni la galanterie une agression machiste. En tant que femme, nous ne nous reconnaissons pas dans ce féminisme qui, au-delà de la dénonciation des abus de pouvoir, prend le visage d'une haine des hommes et de la sexualité. » Fin de citation. Dommage que notre grande Catherine Deneuve se joigne à ce texte consternant. C'est ce qu'a tweeté l'ex-ministre Ségolène Royal. En Afrique, en vedette Charlotte Hydrak, un jeune graphiste ivoirien qui se lance le défi de créer un emoji par jour dédié à la culture africaine.
Oui, vous savez, ces pictogrammes qu'on utilise dans les messages électroniques, les smileys ou les petits cœurs, eh bien, Hope Leroux-Grébet s'est dit qu'il n'y avait pas suffisamment d'emojis typiquement africains. Il a commencé son projet avec des symboles de gastronomie ivoirienne, banane plantain, aloko ou sachet de bissap, une boisson à base d'hibiscus. C'est à découvrir sur les réseaux sociaux avant, pourquoi pas, de les utiliser sur un téléphone portable.
L'actualité en Belgique, Nathalie Devic, votre pays demande à la France de lui restituer les tableaux volés sous la Révolution française.
Des Rubens, Flémal, près de 200 tableaux, des sculptures aussi, dont plusieurs chefs-d'œuvre emportés par l'armée révolutionnaire française, destination le Louvre, où la France voulait ouvrir la plus grande exposition universelle en 1794. La plupart des œuvres dérobées nous sont revenues après la chute de l'Empire français, mais l'Institut royal belge du patrimoine artistique estime qu'il en reste encore une septantaine dans divers musées de France. Certains de ces tableaux avaient été prêtés, mais la plupart ont bien été pillés. La Belgique en détient d'ailleurs toujours le titre de propriété. Dès lors, notre pays peut-il aujourd'hui récupérer ses œuvres? Question délicate, il n'existe pas de base juridique permettant ces restitutions, selon l'historien d'art Pierre-Yves Kéris.
Il y a aujourd'hui des conventions qui protègent le patrimoine en cas de conflit armé. Ça n'existait pas à l'époque de la Révolution, ni même dans les années qui ont suivi. Et donc, comme le disait très bien un arrêt du tribunal administratif de Paris en 2009, jusqu'au XXe siècle, le pillage des œuvres d'art n'était pas contraire au droit international.
Cela fait plusieurs années déjà que la Belgique tente la voie diplomatique. Aujourd'hui, l'un de nos députés accentue la pression en déposant une résolution pour se rappeler au bon souvenir de la France. Encouragé en cela par la promesse du président Macron, il y a 2 mois, au Burkina, de restituer dans les 5 ans les œuvres du patrimoine africain. Les Belges attendent à présent un geste comparable entre bons voisins.
En Afrique, Charlotte Hydrac, le Sénégal est l'effroi après une tuerie en Casamance, dans le sud du pays.
14 jeunes massacrés le week-end dernier près de la ville de Ziguinchor. Des coupeurs de bois attaqués par une bande armée. Boubacar Sidibé est un rescapé. Il était sorti de la forêt pour déjeuner.
Les gars, ils sont venus à la maison.
En partant, les bourreaux ont mis le feu à la brousse. C'est la 14e fois que je me retrouve dans une telle situation. Et à chaque fois, les rebelles nous frappent et nous dépouillent de tous nos biens avant de nous laisser finalement partir. Mais cette fois, ceux qui ont tué nos collègues portaient des cagoules. Je n'ai pas pu les reconnaître et j'ignore d'où ils venaient.
Un regain de violence inattendu après plusieurs années de calme dans cette région de Casamance, secouée par un conflit armé et meurtrier depuis 1982, lancé par le mouvement indépendantiste du MFDC. Mais cette fois, cela ne semble pas idéologique, ce sont plutôt les trafiquants de bois, le bois de teck, qui sont pointés du doigt. Pierre Goudiabi Atepa est le président du collectif des cadres de Casamance.
Ce qui s'est passé, c'est une affaire de voyous. Il y a une mafia qui s'est organisée, qui envoie des jeunes aller chercher du bois ou aller couper du bois dans des endroits où c'est interdit. La racine du mal, c'est cette mafia qui s'est installée en Casamance et qui pille les forêts casamançaises depuis plus de 10 ans.
Les Sénégalais espèrent que cela n'augure pas un nouveau cycle de violence en Casamance. Dans son message de fin d'année, le président Macky Sall avait appelé à une paix définitive dans la région, sans vainqueur ni vaincu.
La Suisse, Pierre Anchoffa, la Suisse attend la visite de Donald Trump. Et il assistera au Forum économique mondial de Davos le 24 janvier prochain.
L'édition 2017 avait beaucoup parlé du phénomène Trump. Le forum de cette année pourra s'y confronter. Le président américain a l'intention de venir y défendre son programme America First. L'Amérique d'abord. Les autorités suisses se réjouissent de cette visite et s'affairent pour rendre possible une rencontre bilatérale avec Donald Trump. La dernière remonte à près de 20 ans. C'était avec Bill Clinton, déjà au Forum de Davos.
Donc Pierre Anchoffa, votre président le rencontrerait volontiers ?
Oui, le socialiste Alain Berset l'a laissé entendre sans prêter d'attention aux jeunesses de son parti qui demandent, elle, au gouvernement de refuser l'entrée sur le territoire suisse au président américain. Socialiste, elle aussi, l'ancienne ministre des Affaires étrangères Micheline Calmiret appuie son camarade du Conseil fédéral.
On rencontre beaucoup, beaucoup de monde avec lesquels on ne partage pas forcément les mêmes opinions qu'on n'inviterait pas dans son salon. Et c'est là que les intérêts du pays doivent être défendus et qu'il faut savoir aussi parler vrai. C'est vraiment la leçon que j'ai apprise à Davos. C'est important de dire les choses quand on n'est pas d'accord, de les dire clairement, de défendre ses positions, parce que la complaisance n'a pas cours. Hein. Je veux dire, chaque pays défend ses intérêts. C'est tout l'art de la diplomatie.
Une politique d'intérêt, une raison d'État que ne sont pas prêts d'entendre les altermondialistes et autres pourfendeurs de l'impérialisme américain. Tel un chiffon rouge, l'annonce surprise de la venue de Donald Trump les a électrisés. Une pétition intitulée « Trump not welcome » circule déjà et les services de sécurité s'attendent dès maintenant à des manifestations potentiellement plus violentes pour protester contre la présence du président des États-Unis.
En France, le gouvernement décide d'abaisser de 90 à 80 km/h la vitesse sur les routes secondaires. Édouard Philippe, le Premier ministre, sait que cette mesure suscite des débats. Si pour sauver des vies, il faut être impopulaire, j'accepte de l'être, dit-il. Le nombre des morts sur les routes n'a cessé d'augmenter ces dernières années. 3477 tués en 2016. Sur le terrain, avant l'entrée en vigueur de la mesure, le 1er juillet prochain, il faudra changer les 20 000 panneaux qui jalonnent 400 000 kilomètres de routes concernées. Coût de l'opération entre 5 et 10 millions d'euros. Les spécialistes de la sécurité routière sont formels. Plus on diminue la vitesse, moins les chocs sont violents et moins les dégâts le sont également. Pourtant, cette décision du gouvernement suscite des réactions très hostiles. Exemple, celle de Daniel Quérault, qui est président de l'association 40 millions d'automobilistes.
En quoi passer à 80, ça va changer quelque chose? Non, c'est pas comme ça qu'on vous a appris à conduire. On vous a appris à adapter votre vitesse à la situation. C'est facile de l'expliquer en disant oui, mais la distance de freinage, etc. Mais ça, ce sont des formules mathématiques. Il y a beaucoup d'autres causes qu'on oublie, parce qu'on ne parle que de la vitesse, que des radars. Et toutes les autres causes, qu'est-ce qu'on en fait? L'alcool, la distraction, la somnolence, les stupéfiants. Et l'amélioration des réseaux routiers. Qu'est-ce qu'on en fait de tout ça?
Cette limitation à 80 km/h a déjà été expérimentée ces dernières années sur des portions de route dans la Drôme. Yves, automobiliste qui vit dans ce département, n'est pas convaincu par les résultats.
Pour nous, ça a changé donc financièrement, puisqu'on se prend souvent des amendes. Moi, en 3 ans, je me suis fait prendre 3 fois. C'est la voiture radar qui fait les allers-retours entre Vesoul et Rio et qui vous flash si vous dépassez les 80. Donc en fait, vous vous faites prendre, je me suis fait prendre une fois à 82, une fois à 86, puis l'autre fois pareil à 92. C'est quand même extrêmement dur de tenir, même avec des voitures de petite cylindrée, de tenir un 80 sur la nationale. C'est pas possible. Hein. Ou soit ils brident les voitures, ils ont qu'à brider les voitures. Il faudrait toujours avoir les yeux sur le compteur en fait. Constamment, regardez, à chaque 82, hop, je baisse, je lâche le pied, faire que ça. Notre attention, elle est plutôt sur le compteur que sur la route. C'est comme le tabac et l'alcool, hein. La vitesse, c'est des choses qui rapportent jackpot pour l'État. Hein.
Selon un sondage Harris Interactive publié cette semaine, 59% des Français sont opposés à cette mesure et 83% pensent qu'elle vise surtout à accroître le montant total des contraventions. Au Canada, Tamara Alteresco, en Ontario, le salaire minimum a bondi d'un coup à 14 $ de l'heure, donc 9 euros, et des entreprises ont du mal à l'accepter.
Absolument, ça fait à peine 2 semaines que le salaire minimum a augmenté en Ontario, la province la plus populeuse, mais déjà on assiste à une levée de boucliers chez certains entrepreneurs, et pas n'importe lesquels. Vous savez, on a au Canada une chaîne de café qui est une véritable institution, ça s'appelle Tim Hortons. Eh bien, il y a des franchises de Tim Hortons qui, pour protester contre cette augmentation, ont décidé de la faire absorber par leurs propres employés. Imaginez, en les privant de certains de leurs bénéfices. Par exemple, fini les pauses café, fini les bonus, et on prend même les pourboires, ce qui est carrément illégal. Et le comble, je vous dirais, c'est qu'un de ces franchisés qui s'est livré à ce genre de pratique est un des héritiers du fondateur de la chaîne. Donc, c'est la honte et le cauchemar de relations publiques pour Tim Hortons. Il y a un appel au boycott des cafés Tim Hortons. Les syndicats sont sortis dans la rue pour dénoncer. La première ministre de l'Ontario, Kathleen Wynne, a prévenu sur Twitter que tout employeur qui en a contre sa politique du salaire minimum devra avoir affaire à elle. Résultat, on a mis sur pied en Ontario un espèce de système de surveillance pour s'assurer qu'aucun patron n'ose refiler la hausse du salaire minimum à ses employés. Le ministère du Travail a même mis sur pied une ligne téléphonique pour encourager la délation, pour que les employés dénoncent les patrons qui oseraient violer leurs droits. Le gouvernement se donne même le droit de publier, très publiquement, leur nom au grand jour. Donc, ça joue extrêmement dur. Est-ce que c'est nécessaire d'aller jusque-là? Vous comprendrez que ça augmente la tension entre le gouvernement de l'Ontario et le milieu des affaires, qui prévient depuis des mois que cette hausse du salaire minimum était trop soudaine et trop rapide.
L'actualité francophone à la semaine prochaine. Retrouvez-nous sur le site lesmediafrancophones.org.